Nous sommes le jeudi 21 mai. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Kim Mongju et de Baptiste Morigal.
À la une aujourd'hui, l'accord conclu au dernier moment hier soir entre la direction et le syndicat de Samsung Electronics qui permet d'éviter une grève mais dont l'impact sur l'économie sud-coréenne inquiète. Nous évoquerons également les bonnes nouvelles sur le plan énergétique qui arrivent malgré la prolongation du conflit au Moyen-Orient. Et nous terminerons par le début officiel de la campagne électorale pour les élections locales et les législatives partielles du 3 juin.
Nous ouvrons ce journal avec l'accord de dernière minute entre la direction et le syndicat de Samsung Electronics, évitant ainsi le début d'une grève générale aujourd'hui.
Oui, hier soir, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente après l'intervention du gouvernement en signant un accord provisoire sur les négociations salariales pour 2026. Les inquiétudes qui grandissaient autour des pertes pouvant atteindre 100 000 milliards de won, ainsi que des répercussions sur l'écosystème des semi-conducteurs et des chaînes d'approvisionnement, devraient ainsi être balayées. Une autre étape doit toutefois être franchie, l'approbation par les syndiqués qui voteront du 22 mai à 14h au 27 mai à 10h pour approuver ou non cet accord. En cas de vote positif, le conflit social qui dure depuis plus de 5 mois devrait prendre définitivement fin. Le syndicat a également décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la grève générale qui devait débuter aujourd'hui.
Quels sont les sujets sur lesquels les deux camps se sont entendus?
Ils ont décidé de maintenir le système actuel d'OPI, une prime liée aux bénéfices excédentaires, tout en créant une nouvelle prime spéciale de gestion pour la division semi-conducteur ou DS. Cette prime sera financée à hauteur de 10,5% des résultats de l'entreprise retenus d'un commun accord sans plafond de versement. Son montant sera réparti à hauteur de 40% pour l'ensemble de l'activité semi-conducteur, tandis que les 60% restants seront distribués entre les différentes unités de la division. L'intégralité sera versée après impôt sous forme d'actions de l'entreprise. En prenant en compte les résultats estimés de cette année, les salariés de la division DS pourraient ainsi obtenir jusqu'à 600 000 millions de won. Par ailleurs, l'application d'un système de pénalité prévoyant une distribution différenciée pour les divisions déficitaires a été reporté à l'an prochain. Le taux de hausse des salaires a été fixé à 6,2%, dont 4,1% d'augmentation du salaire de base et 2,1% lié aux critères de performance.
Mais cet accord ne fait pas le bonheur de tout le monde au sein de Samsung Electronics.
Effectivement, un groupe d'actionnaires de l'entreprise l'a jugé illégal et a annoncé son intention d'engager des actions en justice. Le groupe a tenu ce matin un rassemblement devant le domicile du président de Samsung, Lee Jae-yong. D'après lui, l'accord prévoyant l'allocation de 12% du bénéfice d'exploitation avant impôt serait juridiquement nul s'il n'est pas approuvé par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Il a affirmé que si une résolution visant à ratifier et appliquer l'accord est soumise, il engagerait une action en nullité ainsi qu'une procédure d'injonction pour empêcher sa mise en œuvre.
Et il inquiète les experts qui ont peur d'un effet tache d'huile qui pourrait impacter toute l'économie sud-coréenne.
Oui, puisque si une grève a été évitée, la question de la prime indexée sur le bénéfice d'exploitation, principal point de tension des négociations, s'étend désormais à d'autres secteurs, dans l'industrie automobile et la construction navale, mais aussi dans les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications. Des syndicats multiplient les revendications pour obtenir un système similaire. Des experts estiment qu'une généralisation de demandes excessive en matière de primes de performance pourrait alourdir les charges des entreprises, freiner les investissements et l'emploi et accentuer la dualisation du marché du travail. De son côté, la présidence a déclaré ce matin qu'elle entendait soutenir un ajustement des négociations sociales vers une direction raisonnable, rappelant que ce conflit a un impact considérable sur l'économie nationale.
Autre sujet d'envergure, la crise au Moyen-Orient avec une bonne nouvelle pour le secteur énergétique puisqu'un pétrolier sud-coréen a pu traverser le détroit d'Ormuz.
Et c'est une première depuis le début de la guerre. Le supertanker Universal Winner de l'armateur HMM, avec à son bord une vingtaine de membres d'équipage dont 9 sud-coréens, a franchi le détroit d'Ormuz hier en coopération avec les autorités iraniennes. Parti des eaux proches du Qatar mardi à l'aube, le navire s'est déplacé jusqu'au large du port de Dubaï mercredi matin. Il a ensuite emprunté la voie maritime proposée par Téhéran pour traverser le détroit et rejoindre le golfe d'Oman. Il doit arriver le 8 juin au port d'Ulsan, sa destination finale dans le sud-est de la Corée du Sud. Il avait quitté le Koweït début mars après y avoir chargé 2 millions de barils de pétrole brut, mais il s'était retrouvé immobilisé par le blocus du détroit. Depuis, Séoul continuait de demander à Téhéran la reprise de la circulation de tous les navires dans ce corridor stratégique. Après un long silence, l'Iran a autorisé lundi le pétrolier à l'emprunter.
Ce qui alimente les spéculations sur un potentiel lien avec la récente attaque contre le navire de commerce Namu, exploité également par HMM.
Tout à fait, même si Séoul a rejeté cette hypothèse, affirmant que cette traversée est le fruit de ses efforts et n'a aucun rapport avec l'incident du 4 mai. Son ministre des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien à 4 reprises et a également envoyé son émissaire spécial à Téhéran. Le gouvernement a également tenu à indiquer n'avoir payé aucun droit de passage ni aucune autre forme de contrepartie. A noter que 25 navires et 151 sud-coréens sont toujours bloqués à l'intérieur du détroit.
Autre bonne nouvelle pour les automobilistes notamment, la réduction des taxes sur les carburants est prolongée.
Oui, alors qu'elle devait expirer à la fin du mois, elle a été reconduite jusqu'à fin juillet. Le niveau de réduction sera maintenu à 15% pour l'essence et 25% pour le diesel. Cela correspond à une baisse d'environ 122 won et 145 won par litre respectivement. Le gouvernement a également indiqué que selon la législation actuelle, les pratiques de thésaurisation spéculative peuvent faire l'objet de sanctions pénales, mais que les instruments de sanctions économiques restent insuffisants. Il a donc annoncé son intention de réformer le dispositif pour permettre l'imposition d'astreintes et la vente immédiate des biens saisis. Par ailleurs, il prévoit de créer une nouvelle amende administrative supérieure au profit indûment réalisé afin de confisquer l'intégralité des gains concernés.
Et le conflit au Moyen-Orient a aussi joué un rôle positif sur les ventes de véhicules électriques sur le marché national, mais aussi à l'étranger.
Exactement. En avril, les ventes de véhicules électriques en Corée du Sud se sont élevées à 38 927 unités, enregistrant une progression de 139,7% sur un an. Elles permettent ainsi une hausse globale des ventes de 0,7%. Les modèles écologiques ont également connu une croissance de 22,8% sur un an à l'export, insuffisant toutefois pour porter des exportations globales qui ont ralenti de 5,5% en raison des incertitudes liées aux droits de douane américains et bien entendu à la prolongation du conflit en Iran.
Et pour refermer ce chapitre, le gouvernement a annoncé une aide de 6 milliards de dollars en faveur des pays du Moyen-Orient confrontés à des difficultés temporaires de liquidité en raison de la guerre.
Oui, lors d'une réunion ministérielle sur les affaires économiques extérieures, le ministre de l'économie et des finances a déclaré que c'est dans le besoin que les véritables amis sont reconnus. Koo Yun-chol a précisé que le gouvernement sélectionnerait des pays ayant entretenu des liens étroits avec le développement économique de la Corée du Sud. Ainsi, la banque d'import-export de Corée et la Korea Trade and Sales Corporation fourniront chacune 3 milliards de dollars de fonds de fonctionnement d'urgence aux principaux donneurs d'ordre du Moyen-Orient. L'exécutif prévoit également de mettre en œuvre des dispositifs de soutien financier en coopération avec des institutions de financement public, des agences de crédit à l'exportation et des banques multilatérales de développement.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Aujourd'hui marque aussi une date importante dans l'agenda politique puisqu'il s'agit du lancement officiel de la campagne pour les élections locales et législatives partielles du 3 juin.
Oui, les plus de 7800 candidats ont ainsi jusqu'à la veille du vote pour séduire les électeurs. Ces derniers sont appelés aux urnes pour choisir 16 édiles et gouverneurs ainsi que 933 conseillers de 16 grandes villes et provinces, 227 maires et 3035 conseillers de petites collectivités locales, 14 députés et 16 recteurs d'académie.
Quels sont les enjeux des deux scrutins?
Comme ce sont les premiers organisés à l'échelle nationale depuis l'entrée en fonction de Lee Jae-myung, leurs résultats auront valeur de test pour le paysage politique à venir, notamment en perspective des législatives générales prévues en 2028. Pour les élections locales, la course est serrée entre les candidats du Minju et du Parti du Pouvoir du Peuple, notamment pour les mairies de Séoul et Busan, ainsi que pour la tête des provinces du Gyeongsang du Sud et de Gangwon. Pour les législatives partielles, le regard est tourné en particulier vers celles où se présentent les candidats potentiels des deux principaux mouvements politiques à la prochaine présidentielle de 2030. Parmi eux, l'ancien ministre de la Justice Cho Kuk et l'un de ses successeurs Han Dong-hoon. La formation présidentielle de centre-gauche espère remporter une victoire nationale écrasante pour assurer la continuité des actions du quinquennat de Lee Jae-myung. De son côté, la première force de l'opposition conservatrice appelle les électeurs centristes en particulier à voter pour ses candidats en vue d'empêcher le pouvoir de faire cavalier seul.
Face à ce fort enjeu, les électeurs devraient se mobiliser.
Oui, selon une récente enquête de Gallup Korea, publiée aujourd'hui par la Commission électorale nationale, 73% des électeurs ont déclaré avoir l'intention de voter de manière certaine. Un chiffre en hausse de 3,8 points de pourcentage par rapport au résultat du scrutin de 2022. Par tranche d'âge, les sexagénaires et les 70 ans et plus affichent le taux d'intention de vote le plus élevé à 83% chacune. Ils sont suivis des quinquagénaires, des quadragénaires et des trentenaires. En revanche, seulement un jeune de moins de 30 ans sur deux assure avec certitude qu'il ira glisser un bulletin dans l'urne. Concernant les critères pris en compte pour choisir les responsables des collectivités locales, arrivent en premier les politiques et promesses électorales, viennent ensuite les compétences et l'expérience, l'affiliation politique et enfin la moralité.
Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, Séoul, au jour le jour, présenté par Elodie Stanislas. Bonne soirée sur KBS World Radio.